commissaire d'Aquitaine. Vous avez dit que la France croyait au TGV. J'ai le sentiment qu'elle ne croit pas si fortement que ça, puisque ce qu'on constate, ce n'est pas forcément un problème de conviction dans l'intérêt du TGV, même si les phénomènes ne sont pas automatiques. Pour ma part, je participe à un séminaire qui est lié à l'opération d'intérêt national de la gare Euratlantique à Bordeaux. Je constate que des personnalités d'horizons très diverses conçoivent l'enjeu d'un TGV d'intérêt, même s'il s'agit bien évidemment d'anticiper. Ce sur quoi nous butons, c'est la question du financement, et qui, aujourd'hui encore, fait que ce grand projet du Sud-Ouest, parce que c'est, on l'appelle aujourd'hui comme ceci, dans la mesure où il s'agit d'aller jusqu'en Espagne, puis de rejoindre Toulouse, le financement non seulement n'est pas assuré, mais on a le sentiment que plus le temps passe, et plus ça devient difficile, et il semble qu'il ne soit pas suffisamment innovant pour intéresser le grand emprunt. Donc, moi, je vois depuis un nombre d'années important l'annonce de la LGV, elle ne se réalise pas, et qui plus est, on sollicite de plus en plus dans des volumes financiers considérables des collectivités territoriales à un moment donné où non seulement elles ne connaissent pas leurs compétences, mais en plus leurs ressources sont elles-mêmes soumises à beaucoup d'incertitudes en raison même de la disparition de la taxe professionnelle. Je trouve qu'il y a une forte contradiction entre l'effet d'annonce et puis la réalité concrète sur le terrain d'une politique qui a du mal à avancer. Et ce matin a été évoqué le RTET, le réseau transeuropéen de transport. Un livre vert a été rédigé il y a quelque temps de ça, qui a mis en évidence la grande insuffisance des moyens européens pour créer justement un réseau européen intégré. On avance du point de vue de l'interopérabilité peut-être, mais du point de vue du maillage, on en est encore très loin. Et là, manifestement, que ce soit au niveau européen ou des politiques nationales, je ne vois pas d'une volonté à la mesure des intentions qui sont affichées. Donc je doute de cette croyance dans le TGV.
Juste un mot pour évoquer les autres choses dont Michel m'avait parlé dessus. Le schéma national d'infrastructure de transport qui est prévu au Grenelle de l'environnement va être un acte fort du gouvernement, multimodal, hein, qui comprend aussi évidemment les autoroutes, les ports et les aéroports, et qui fera valoir donc cette volonté importante qu'il y a de pouvoir le faire. Vous dites c'est une volonté, je vous ai indiqué aussi, c'est une volonté au nom du développement durable qui est devenu quand même quelque chose de particulièrement important, qui commence aussi à avoir un coût, hein, en matière fiscale, en matière économique, etc. Donc une opération qui puisse être vertueuse en matière de développement durable n'a pas qu'une vertu éthérée, mais peut aussi en tant que telle avoir un intérêt un intérêt économique en tant que tel. Et puis donc sur des enjeux d'investissement importants. Il est vrai que les financements sont de plus en plus multiples, à la fois entre les collectivités. On a eu 17, je crois, sur TGV Est différentes. C'est des choses qui prennent du temps, des négociations. C'est effectivement pas simple. On pourrait regretter le temps où en effet la SNCF seule veut financer ça, ou l'État à la limite même, puisque vous avez des négociations qui sont venues très dures, des jeux entre les collectivités territoriales, l'État, le réseau Ferré de France, qui sont des négociations, je puis vous dire, particulièrement difficiles, longues, et qui n'accélèrent pas le calendrier également. Donc les cofinanceurs, qui parfois peuvent se plaindre de la lenteur du système, sont parfois aussi un petit peu acteurs de cet aspect-là. Au-delà des financements publics, dessus, donc, il y a un phénomène qui est quand même encore relativement nouveau en France, qui est celui donc du financement et des participations privées dans des infrastructures de ce genre. Et là, les notions de PPP ne sont pas encore à leur véritable vitesse de croisière et importance qu'il peut y avoir à ce niveau. Ceci dépendra ligne par ligne de beaucoup de choses, et notamment les notions de risque que peut avoir un partenaire privé sur des infrastructures de ce genre, et donc c'est à considérer au cas par cas. Mais, cependant, la volonté existe, c'est puni dessus, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. La participation, vous parliez de l'OIM qui se fait sur Bordeaux, Euratlantique, est justement un système d'anticipation qui devrait permettre de le faire et qui viendra d'ailleurs en plus renforcer la volonté et la mise en place en fait de la LGV SEA. Une des raisons d'être de l'établissement public, puisqu'il y en aura probablement un, donc enfin, il y en a un, c'est dans les tuyaux de Bordeaux, Euratlantique, et celui d'être être à la convergence de trois TGV. C'est bien ce qui est indiqué au niveau de Bordeaux. Un qui vient de Tours, un qui vient de Toulouse et un qui vient de Biarritz. Et avec ces trois-là, il y a un changement fort à pouvoir faire au niveau de Bordeaux. C'est une opération relativement importante qui mérite d'être saluée et qui est considérée par l'État d'ailleurs comme d'intérêt national. Donc, tout ça, c'est un ensemble dessus, certes, je ne garantis pas au niveau des délais en tant que tel, mais qui montre tout de même qu'on est dans une volonté forte et tout à fait dans le sens de l'histoire.
Mais François Thèse, je travaille à la Poste, mais j'ai quand même parlé de la SNCF. Demain soir, quand je gagnerai mes moyens de province, puisque j'habite à Rodez, hein, je marquerai par une remarque avant de poser ma question. Je penserai avec émotion à ce qu'on a dit sur le TGV, puisque Rodez doit être aujourd'hui une des villes de France la plus loin de Paris, la liaison la plus directe mettant 6h45, dont 3h pour faire les 150 derniers kilomètres entre Brive-la-Gaillarde et Rodez. C'est ça aussi la fracture territoriale de notre beau pays. Elle existe. Ceci étant posé, et par ailleurs je considère à titre personnel, et je ne suis pas persuadé que la TGVisation en outrance soit forcément la bonne réponse à toutes les problématiques de développement territorial. J'ai une grosse interrogation sur le Paris-Toulouse par Bordeaux. Géographiquement et en termes de drainage du territoire, je pense que la POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, pouvait avec modernité. Je ne sais pas si le delta temps qu'on va gagner avec un TGV sur Toulouse par rapport à l'existant sera de nature à modifier fondamentalement et à faire notamment une bascule de l'aérien sur le ferroviaire avec la grande métropole du Sud. Mais ça, c'est une réflexion perso, c'est pas ma question. Ma question, elle est par rapport à l'implantation des gares. Si on prend un peu de recul avec l'histoire, on dit aujourd'hui les gares sont un centre-ville. Non, c'est la ville qui a rattrapé les gares. Les gares étaient des embarcadères à l'époque où on les a construites, au 19e siècle, étaient à l'extérieur du fait urbain. La ville a mangé les gares. Et ce qu'on a vécu entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle, cette urbanisation des quartiers où s'implantaient les gares, on ne peut pas le vivre avec ces gares TGV qui seront durablement à l'extérieur des zones agglomérées, puisque le tracé fait qu'elles sont à des distances qui sont éloignées. Moi, la question que vous m'avez posée, vous l'évoquez dans les réflexions, l'implantation des gares, cette interconnexion entre le réseau ferré régional, donc tout ce qui est de ce module TER, et le réseau ferré national, interrégional ou intra-européen, c'est quelque chose qui, à mon sens, peut être un élément moteur du développement du ferroviaire combiné. C'est un sujet dont on parle, je trouve, relativement peu. Je voulais savoir quelle était votre opinion là-dessus, puisque je suis frappé qu'on n'ait pas pensé à construire des gares TER à côté des gares TGV. C'est ouvert, mais à mon sens, ça aurait changé, à mon avis, beaucoup de choses.
Oui, alors, pour le Ruthénois que vous êtes, en effet, vous n'êtes pas le pire cas d'enclavement en France. Non, en matière de temps, pas, non. L'enclavement se mesure, enfin, pour certains points, dans la durée de temps ferroviaire et routière sur Paris. Bon, si on est par rapport à Paris, c'est notre argument. Aurillac est pire que Rodez. Bon. Mais sachez que tant sur Rodez que sur Aurillac, je fais cette parenthèse, l'État subventionne le transport aérien. Il y a une ligne aérienne d'aménagement du territoire pour aller desservir Rodez. On parlait de finances tout à l'heure, et le fait que là, un Paris-Rodez serait vraiment peu justifié en matière de LGV. Par contre, ça a un sens en matière effectivement aérien, et c'est un des modes, et même si sur le plan Grenelle n'est pas toujours le plus vertueux, et en tout cas en matière d'aménagement du territoire et du l'enclavement, essentiel pour l'activité de la région ruthénoise comme de la région de Aurillac, etc. Donc ça continuera, et il y a bien un maintien de ce qu'il peut y avoir là-dessus. Sur le pôle Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, le choix a été fait assez clairement de passer par Bordeaux. On parlait de finances tout à l'heure. Les chiffres montrent, je ne les ai pas en tête, que faire du Paris-Toulouse par Bordeaux ou par Limoges, la différence en temps est faible. Par contre, si au passage vous desservez Bordeaux, ça ne paraît pas absurde. Et donc on a effectivement une notion plus globale de LGV qui ont des fonctions cumulées qui peut être plus intéressante sur ce plan. Ceci dit, le schéma national sera mis en concertation et il y aura probablement encore des demandes d'une alternative. Mais à partir du moment où la loi même a fixé et passe par Bordeaux, il me paraît plus délicat de pouvoir imaginer qu'en plus on puisse avoir une gare à Paris. On aura du Paris-Orléans, peut-être, mais Paris-Orléans, clairement, hein, c'est le... non, je n'ai pas là, j'ai pas de souris. Si j'en ai une, c'est cette bande là, voilà, vous avez vu là, il y a un pointillé, il y a là-dedans quelque chose, on ne sait pas encore par où, mais qui fera donc du Paris-Orléans puis qui ensuite ira chercher aux alentours de Clermont pour aller doubler le Paris-Lyon, hein, donc arriver sur Lyon. Donc il y a une petite partie ici. En ce qui concerne Limoges, c'est plus la peine, puisque si vous faites Poitiers-Limoges, qui est bien prévu en tant que tel, vous arrivez à un niveau de service tout à fait valable et sans être amené à avoir du Paris-Limoges direct. Et en ce qui concerne Toulouse, donc en passant par Bordeaux, c'est quoi. Bon, donc là, il y a un choix qui est fait, mais qui. Alors, ça m'a fait perdre votre dernière question. Alors, il est vrai que les gares ex-urbanisées pour le moment, sont des gares, en effet, qui sont à l'extérieur, au milieu de tout, n'importe quoi. On a parlé de gares betteraves, de gares partout. Bon. Certaines, donc, sont maintenant particulièrement actives, sont plutôt des gares qui ressemblent à des aéroports, voire à des hypermarchés, c'est-à-dire des gares avec une intermodalité purement, purement voiture, hein, ça se situe sur Valence, sur Aix aussi, partie. Il est de fait que pour nous, à la DATAR, et c'est ce qu'on fait valoir justement pour les futures gares, il ne devrait pas y avoir une seule gare ex-urbanisée sans un lien TER. Le TER est nécessaire, pas uniquement pour éviter qu'il y ait la voiture pour pouvoir aller prendre son train, parce que ça peut encore être intéressant à un certain point, mais pour que l'effet TGV, qui est un effet, je le répète, enfin j'étais un peu rapide, mais très important, ne soit pas uniquement un effet sur le pôle qui est concerné par la gare. C'est un effet qui doit rentrer en profondeur dans les territoires. Seule façon de le faire, c'est que les TER soient intelligemment connectés et interfacés avec les TGV. Il y a des solutions, il y a des gens qui le font, mais les gares, je prends le contre-exemple majeur, qui est la gare de Louvigny en Lorraine.
Précisément, ils vont changer la gare.
Alors, ils vont la changer, mais aujourd'hui, il y a une gare qui n'est pas sur un TER. Donc, il est question de la remettre sur effectivement la ligne qui est TER là-dessus. Ceci devrait être systématique. Et il faut que ceci puisse le faire dedans. Et ça, cette intermodalité, elle est essentielle. Et à partir de là, il y a en effet toute une diffusion, un certain nombre de villes qui n'ont pas à aller chercher que le TGV arrive chez elles, si elles ont des moyens corrects, valables, intelligents aussi, hein, de nouvelles technologies, etc., qui leur permettent de pouvoir se connecter aux grands corridors, qui sont des corridors puissants dans lesquels il y a les TGV.
Deux dernières questions, parce qu'il est tard.
Je fais observer après deuxième année, Conseil économique social de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voulais faire observer après mon collègue d'Aquitaine qu'il y a d'autant plus d'incohérence à demander le financement aux collectivités territoriales à un moment où on leur supprime la clause de compétence générale. C'était une aparté. En fait, je voulais intervenir sur l'interconnexion, à la fois avec les TER et à la fois avec les autres lignes de chemin de fer. On peut quand même regretter que j'ai maintenant ancien, je vais sur Paris-Lyon, qu'on ait attendu autant de temps, parce que j'ajouterais que le problème ne se pose pas simplement dans les nouvelles gares. Par exemple, si je prends PACA, tout simplement à Aix, qui est une nouvelle gare, il n'y a pas de TER, et ça se pose aussi à Marseille par exemple, puisque le réseau TER, je dis, hein, on va rentrer dans le détail, est extrêmement déficient, en clair. Ça m'amène sur une deuxième idée, puisque ce point-là a déjà été évoqué. Moi, je suis d'accord avec l'idée que le TGV a un rôle structurant essentiel. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut que les métropoles soient reliées entre elles, et pas simplement en France, mais au niveau européen. Et pour autant, il est tout autant nécessaire, dans le même temps, de s'occuper du reste, donc de ce qui est à l'extérieur des grandes voies de communication. Et ça, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas fait. Et de mon point de vue, du point de vue de l'attractivité, de la compétitivité des territoires, on y perdra beaucoup. L'autre élément qui n'a pas été abordé, c'est l'effet foncier et spéculation immobilière, très fort, qui est entraîné par l'arrivée d'une LGV dans, j'imagine, la plupart des villes, celle que je connais, et pas évidemment mieux.
Le mieux,
c'est dans ma région, avec des effets induits extrêmement négatifs de ce point de vue.
Oui, alors sur les questions du réseau ferroviaire en général, je ne parlais que de TGV maintenant, en effet, avec des fonctions européennes, des fonctions locales, le cas du projet TGV PACA, est assez nette entre la volonté de pouvoir relier Marseille à Toulon, Toulon à Nice, etc. Donc une fonction infra-régionale d'un TGV avec une fonction plus générale qu'on peut avoir, et je l'espère un peu plus tard de faire du Barcelone-Gênes et pas un arrêt sur Nice. Enfin, ça c'est effectivement une vraie fonction aussi d'une TGV à l'européenne. Mais la notion d'interconnexion avec le réseau ferroviaire existant est effectivement essentielle. On l'a vu avec les gares, mais il faut le faire au niveau du réseau et des services qu'il peut y avoir là-dessus. Il y a des efforts, hein. Je ne suis pas au ministère des Transports, enfin, je ne sais plus, mais qui sont faits tout de même pour réhabiliter le réseau ferroviaire. Des efforts financiers assez conséquents. Le réseau existant, des lignes classiques, hein, non grande vitesse, hein, qui est vieillissant, qui a de difficultés, qui ralentissement, etc. Donc tout ça est pris en compte tout de même, ça va prendre du temps, mais il y a une réhabilitation qui existe. Des plans rails qui se font, y compris d'ailleurs avec l'appui de certains conseils régionaux qui, aux côtés de l'État, aux côtés des RFF, financent pour accélérer ces mises en place. On le retrouve aussi dans les contrats de projet État-région. Donc il y a cet effort qui est là. L'interconnexion là-dessus est importante, déjà, pour que, je le disais, ce qui est un peu aux abords du TGV puisse rentrer là-dessus. Un certain nombre de territoires, malgré cela, n'auront pas de TGV. Alors j'ai parlé des 4500 km, nous avons à Dakar même des idées plus ambitieuses, et j'estime que le réseau n'est pas encore suffisant. Enfin, on peut aller plus loin. Enfin, on verra après ce qu'il y a, et il pourrait encore manquer quelques barreaux. Mais indépendamment de ça, le but ne va pas être de quadriller très finement tout le territoire avec ce type d'infrastructure. Il y a des limites aussi à la pertinence du système. Donc une bonne liaison nationale à ce niveau pourra avoir évidemment des intérêts. Et puis vous avez un certain nombre de petites lignes ferroviaires à tout petit trafic, mais qui sont auxquelles sont très attachées finalement les collectivités et les habitants. Et ça, on le voit, c'est ce qu'on appelle les lignes d'aménagement du territoire. Il y en a un certain nombre. Et nous avons actuellement d'ailleurs un peu des réflexions menées au sein du gouvernement sur le devenir de ces lignes, le problème de la péréquation qui peut être fait au sein de la maison SNCF, qui à la limite, si je fais court, peut financer ces lignes et les exploiter de façon déficitaire, parce qu'à côté il peut y avoir des TGV qui le font. Donc vous voyez qu'aujourd'hui le système a une certaine péréquation interne. Donc les TGV, que vous estimez pas nécessairement suffisants, servent également à pouvoir financer ou sustenter un certain nombre de lignes d'aménagement du territoire qui, elles, sur le plan équation financière, ne sont pas rentables. Cependant, la SNCF ne sera plus le seul opérateur ferroviaire dans ce pays, et donc la péréquation ne peut plus tenir. Donc on a une vraie question qui se pose de suite, oui, de ces lignes. Il y a 2 ans, la SNCF avait failli retirer quelques-unes, ça avait effectivement créé de fortes réactions, on a des choses de genre. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, puisqu'il y en a un en titre dans ce gouvernement, en est plein, a bien affirmé que toutes les lignes d'aménagement du territoire ferroviaire demeureront et resteront. Il y a une volonté de pouvoir le faire à titre d'aménagement du territoire. Au titre, après, de la pertinence propre, hein, je parlais de CO2, d'énergie, etc., il faut pouvoir le voir. Des alternatives intelligentes, parfois par des autocars et autres, peuvent se faire, même si sur le plan de l'image, la collectivité estime que c'est rétrogradé que d'avoir une ligne d'autocar et de perdre sa petite ligne ferroviaire. Bon, là, on est aussi un peu parfois sur l'image, ça joue. En fait, ce sont des cas qui sont tout de même pris en compte. Donc tout ne poussera pas là-dessus. Et si on a un ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, c'est également pour ce genre de choses. Donc il faut profiter et interconnecter les grands pôles, les grandes métropoles, parce que ça tire l'économie nationale à titre global, mais il faut qu'on puisse avoir également et parallèlement une desserte fine des territoires et des territoires moins enclavés, parce que ça fera partie de l'économie globale.
Dernière.
Justement, moi, c'était une réaction par rapport à ça, parce que c'est pas du tout convaincant. Et ce qui n'est pas du tout convaincant aussi, c'est qu'on ait si peu de recul sur les effets de ces réseaux à grande vitesse. On évoquait le cas de Bordeaux. Je pense que si la ligne de PACA avait, enfin, au sud-est avait des efforts, on l'aurait vu par exemple sur Romaine. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et puis s'il y avait des délocalisations de sièges d'entreprises le long des lignes dans les grandes gares et des services dans les lignes en vitesse, je pense qu'on aurait le temps de le voir. Donc les faits ne sont pas aussi avérés que ça. Par contre, ce qui est avéré effectivement, c'est qu'à Tours, à Bordeaux, dans beaucoup d'endroits, il y a effectivement des gens qui peuvent faire d'attendre une arrivée à plus grande distance. Effectivement, on aura de plus en plus de retraités qui pourront passer leur week-end à Toulon, à Nice et à Marseille, et que ça renchérit effectivement les réseaux foncières. Donc je trouve que de ce point de vue, on n'a pas vraiment beaucoup travaillé sur les effets. En tout cas, je suis un peu surpris que la dernière part là-dessus n'ait pas fait vraiment. Et ce qui me surprend doublement, c'est que précisément ce schéma sort d'un Grenelle. Et que, en dépit de ce que tu viens de dire, le sentiment réflexion-là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir comment cette réflexion a été prise, précisément dans un état qui est traité de Grenelle. Et puisque maintenant il y a un data et il y a un nouveau ministre avec un exercice, comment il va régler cette délicate équation.
Bon, mais c'est une question et peut-être une critique sur le plan. Mais je le disais au niveau de la relative faiblesse des études territoriales qu'il y a pu avoir sur les TGV, et ça c'est un constat que nous faisons. Voir qu'il y a des opérateurs, effectivement un certain nombre de laboratoires d'économie, de géographes, d'universités ont fait des études sur les effets territoriaux des TGV. J'ai été rapide, mais encore une fois, je tiens quand même à dire qu'on n'est pas dans une situation où il n'y a pas eu d'étude qui ait pu être faite. Et notamment sur le couloir Paris-Marseille, il y a peut-être un de ceux où on a un peu plus d'études sur les effets économiques qu'il y a pu avoir à ce niveau-là. Il y a des points. Alors cependant, il faut relativiser, et je me permets simplement de faire une chose, si j'ai oublié de vous répondre sur le foncier, et il est fait que, effectivement, il y a tout de même des effets fonciers qui ont joué, mais où les études, je parle à titre global, ont montré qu'ils n'étaient pas aussi conséquents qu'on pouvait imaginer en matière. Il y a deux exceptions près. Un, les quartiers proches de la gare elle-même, en tant que telle, qui peuvent connaître des évolutions foncières fortes, et deux, les gares ou les territoires touristiques. Là, il y a eu des effets propres qui sont dus à l'accessibilité et qui ont augmenté fortement l'activité touristique et donc aussi des conséquences au niveau du foncier à ce niveau-là. On retrouve, je pense à Malo, mais il y a bien d'autres exemples. Donc, pour revenir là-dessus, sur le plan des TGV, il existait déjà des programmes qui, de ce fait, et je ne reviendrai pas, si peut-être, un comité interministériel de 2003, qui est celui qui... indiquer quels étaient les schémas et quelles devaient être donc les grandes lignes à grande vitesse en France. C'est un comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire qui avait défini en effet ce qui pouvait être ces grandes lignes au niveau TGV. Et là, ce schéma qu'on a là vient du Grenelle, c'est vrai, ça n'est plus un comité interministériel, c'est une loi, parce qu'il y a eu une volonté forte, comme vous disiez, d'abord par la montée en puissance des questions climatiques, environnementales et tout, en faveur du ferroviaire, beaucoup plus qu'en 2003. Il y a un effet Grenelle très net dans la politique publique et dans la volonté du gouvernement depuis. Et puis, d'autre part, donc, il y a eu une sorte de, pas de sanctuarisation, mais en tout cas de confirmation, qui plus est par un texte de loi, ce qui est assez rare, c'est même une des premières, parce qu'avant c'était les schémas directeurs avec des décrets, pour pouvoir indiquer les noms de lignes qui pourraient être faits dans une loi. Il y aura un schéma national qui va être un décret, un schéma national d'infrastructure de transport. Donc on va revenir en France sur quelque chose qui n'existait plus depuis 2003, c'est-à-dire des schémas directeurs. Sera-t-il opposable ou pas, et comment ça se revertit, ce sont des questions juridiques qui viendront après. Enfin, c'est normalement un décret au Conseil d'État pour pouvoir l'indiquer. L'aménagement du territoire, la prise en compte dans ces travaux-là. Et ce qui n'est pas dit, c'est que chacun de ces projets-là fait l'objet d'évaluations quand même assez fines, avec des critères territoriaux. Que nous travaillons à l'heure actuelle donc sur le schéma d'ensemble de ce que devrait être la France en 2030 ou 40 sur le plan territorial, au niveau économique, au niveau de l'accessibilité, au niveau d'un élément qui a été rajouté dans la loi et qui est important, qui est celui du désenclavement, qui est cité par d'autres dessus, à ce niveau, et qui va intervenir. Et ceci pas uniquement pour les TGV, mais sur l'ensemble des réseaux. C'est-à-dire que le schéma national ne va pas uniquement mettre quelques lignes comme ce que vous avez là. Il donnera des orientations, je l'espère, relativement précises, ce que doit être le niveau de service des réseaux ferroviaires normaux, nationaux, dans les régions, en fonction donc de leur qualité, du niveau qu'il doit y avoir, et donc du service propre qu'il doit donner en complémentarité avec les LGV. C'est un système à deux niveaux qui se complète assez bien. J'ajouterai un troisième niveau,